On pourrait penser que, pour un parti politique qui venait juste d'essuyer deux cycles de défaites cinglantes, la stratégie du GOP, consistant à opposer une obstruction systématique et pugnace, présentait de gros risques. Et en période de véritable crise, il y avait là assurément quelque chose d'irresponsable. Mais si, comme Benner et McConnell, votre objectif premier était de reprendre le pouvoir coûte que coûte, l'histoire montrait qu'une telle stratégie avait fait ses preuves. Les électeurs américains avaient beau déplorer que les politiciens des camps opposés ne s'entendent pas, ils récompensaient rarement l'opposition ayant collaboré avec le parti au pouvoir. Dans les années 1980, les démocrates avaient conservé leur mainmise sur la Chambre, mais pas sur le Sénat, longtemps après l'élection de Ronald Reagan et le basculement du pays à droite, notamment en raison de la volonté des leaders républicains responsables de contribuer au bon fonctionnement du Congrès. La majorité à la Chambre avait changé de camp uniquement après que le parti républicain, conduit par Gingrich, eut transformé le Congrès en un lieu de querelles continuelles. De même, les démocrates n'avaient pas réussi à se faire entendre dans un Congrès dominé par les républicains, en aidant le président Bush à faire passer ses réductions d'impôts ou son projet de loi concernant les médicaments sur ordonnance. En revanche, ils avaient reconquis la Chambre et le Sénat quand ils avaient commencé à s'opposer systématiquement aux chefs de file républicains, sur des sujets allant de la privatisation du système de protection sociale à la gestion de la guerre en Irak. McConnell et Boehner avaient su retenir ces leçons. Ils avaient compris que tout soutien qu'ils offriraient à mon gouvernement pour construire une réponse efficace et durable de l'État à la crise me serait bénéfique au plan politique et reviendrait à reconnaître tacitement la faillite de leur rhétorique anti-gouvernement, anti-régulation. Si au contraire ils se livraient à un combat d'arrière-garde, suscitaient de la controverse et jetaient quelques grains de sable dans les rouages, au moins avaient-ils une chance de galvaniser leur base et de nous ralentir, les démocrates et moi, à un moment où le pays assurément s'impatientait. En mettant à exécution leur stratégie, les chefs de file républicains disposaient de quelques éléments en leur faveur, à commencer par la nature de la couverture contemporaine de l'actualité. Entre le Sénat et les campagnes, je connaissais pratiquement tous les journalistes politiques des grands médias nationaux, et dans l'ensemble, je les trouvais intelligents, travailleurs, soucieux de respecter la déontologie et de rendre compte de la réalité. À la même période, les conservateurs n'avaient pas tort de penser que, à titre personnel, les journalistes, dans leur majorité, étaient plutôt à gauche du spectre politique. Il était à première vue peu probable que la situation que nous connaissions transforme les journalistes en complices des projets de McConnell et Boehner. Mais que ce soit par peur de trahir leur a priori, parce que le conflit est vendeur, parce que leur rédaction le leur demandait, ou parce que c'était le moyen le plus simple de se plier au délai des fils d'actualité qui, boostés par Internet, tournaient 24 heures sur 24, leur approche collective des reportages concernant ce qui se passait à Washington obéissait à un scénario d'une prévisibilité déprimante. Rapporter ce que dit un camp, incluant une brève phrase choc. Rapporter ce que dit l'autre camp, brève phrase choc du camp opposé, plus elle est insultante, mieux c'est. Laisser au sondage d'opinion le soin de décider qui a raison. Avec le temps, mon équipe et moi nous sommes résignés à ce style de couverture médiatique de type « un tel a dit ceci, un tel a dit cela » au point d'en plaisanter. Par conférence de presse interposée, le débat sur la forme de la Terre a fait rage aujourd'hui. Le président Obama, qui affirme que la Terre est ronde, a essuyé le feu nourri de républicains qui ont soutenu que la Maison-Blanche aurait dissimulé des documents prouvant que la Terre est plate. Durant les premières semaines, toutefois, notre équipe chargée de la communication venant tout juste de se constituer, nous avons pu encore être surpris. Pas seulement par la volonté du GOP de colporter des demi-vérités ou des mensonges éhontés sur ce que proposait le Recovery Act, faire croire que nous avions prévu de dépenser des millions pour créer un musée de la mafia à Las Vegas, par exemple, ou que Nancy Pelosi avait glissé une enveloppe de 30 millions de dollars pour sauver une espèce de souris menacée d'extinction, mais aussi par la résolution des médias de diffuser ou de publier ces énormités comme s'il s'agissait d'informations sérieuses. En insistant beaucoup, nous pouvions obtenir d'un organe de presse qu'il publie un article contradictoire passant au crible les affirmations des républicains. Il était rare cependant que la vérité ait autant d'impact que la une initiale. La plupart des Américains, élevés dans la croyance que le gouvernement gaspillait l'argent, n'avaient ni le temps ni l'envie d'être au fait des détails du processus législatif, ni de savoir qui se montrait raisonnable ou non à la table des négociations. Tout ce qu'ils percevaient, c'était ce que la presse de Washington leur disait, à savoir que républicains et démocrates se battaient à nouveau, que les politiciens dépensaient des sommes folles et que le petit nouveau à la Maison-Blanche ne faisait rien pour changer les choses. Bien entendu, les efforts pour discréditer le Recovery Act dépendaient de la capacité des leaders du GOP à faire respecter les consignes à leurs troupes. Il devait, à minima, s'assurer que le plan de relance ne recueillerait pas le soutien de suffisamment de républicains pour être présenté comme bipartite, car, comme l'expliquerait ultérieurement McConnell, lorsqu'on appose l'étiquette bipartite à quelque chose, cela suggère que des compromis ont été trouvés. Leur tâche était désormais facilitée par le fait que la majorité des membres du GOP venaient de circonscriptions ou d'États solidement républicains. La base de leurs électeurs, biberonnée aux débats sur Fox News, aux émissions de Libre Antenne et aux discours de Sarah Palin, n'était pas d'humeur à faire des compromis. En définitive, la plus forte menace pesant sur la perspective de réélection de ces délégués venait d'opposants aux primaires au sein de leur parti qui pourraient les accuser d'être en réalité des réformistes refoulés. Rush Limbaugh avait déjà fustigé des républicains comme McCain pour avoir déclaré, une fois l'élection passée, qu'il me souhaitait de réussir. « J'espère qu'Obama échouera », avait tonné l'animateur. Début 2009, la plupart des élus républicains ne jugeaient pas sage d'attaquer aussi frontalement en public. En privé, c'était une autre histoire, comme nous l'apprendrions par la suite. Mais même les politiciens qui ne partageaient pas les vues de Limbaugh savaient qu'en prononçant cette simple formule, de fait, ils mobilisaient et influençaient l'opinion d'une bonne part de leur électorat. Les gros donateurs conservateurs pesaient également dans la balance. Paniqués par les coups portés à l'économie et l'impact déjà visible sur les résultats comptables de leurs membres, les groupes traditionnels représentant les intérêts des entreprises, comme la Chambre de commerce, s'étaient en définitive prononcés en faveur du Recovery Act. Mais leur influence sur le Parti républicain avait à cette époque été supplantée par celle d'idéologues milliardaires comme David et Charles Koch, qui avaient consacré des décennies et des centaines de millions de dollars à construire méticuleusement un réseau de think tanks, de groupes de pression, d'acteurs susceptibles d'orchestrer des coups médiatiques et d'agents politiques, tous animés de l'objectif express de démanteler les derniers vestiges de l'État-providence moderne. Pour eux, tout impôt était confiscatoire, la porte ouverte au communisme. Toute régulation était une trahison des principes du libre-marché et du mode de vie américain. Ils considéraient ma victoire comme une menace mortelle. C'est pourquoi, peu après mon investiture, ils avaient organisé un conclave réunissant certains des conservateurs les plus riches des États-Unis dans une somptueuse résidence à Indian Wells, en Californie, pour définir une stratégie de riposte. Ils ne voulaient ni compromis, ni consensus. Ils voulaient la guerre. Et ils ont fait savoir que tout élu républicain qui n'aurait pas le cran de s'opposer à chaque étape de ma politique, non seulement verrait ses financements se tarir, mais en outre se retrouverait aux primaires face à un candidat disposant d'un financement abondant. Quant aux républicains qui étaient encore tentés de coopérer avec moi malgré la pression des électeurs, des donateurs et des médias conservateurs, la bonne vieille pression à l'ancienne des collègues achevait le plus souvent de les en dissuader. Pendant la transition, j'avais fait la connaissance de Judd Gregg, un sénateur républicain compétent et honnête du New Hampshire, et lui avait proposé de le nommer secrétaire au commerce, conformément à mes promesses d'une gouvernance transpartisane. Il avait immédiatement accepté, et début février, nous avons annoncé sa nomination. Mais l'opposition républicaine au Recovery Act s'est faite de plus en plus agressive. McConnell et le reste des cadres du parti s'en sont pris à lui lors de réunions de son groupe parlementaire, et au Sénat, l'ex-première dame Barbara Bush serait intervenue pour le dissuader d'intégrer mon gouvernement. Judd Gregg a craqué. Une semaine après l'annonce, il m'appelait pour se retirer. Certains républicains n'ont pas tout de suite perçu que le vent tournait au sein de leur parti. Le jour où le Sénat devait voter le Recovery Act, je me trouvais à Fort Myers, en Floride, où je participais à un débat pour défendre le projet de loi et répondre à des questions sur l'économie. À mes côtés, le gouverneur de Floride, Charlie Crist, un républicain modéré, aux manières raffinées et au physique tout droit sorti d'une agence de casting. Bronzé, cheveux argentés, dents étincelantes. Crist était extrêmement populaire à l'époque, ayant cultivé l'image de quelqu'un qui n'était pas prisonnier de la ligne du parti, évitant les questions sociales clivantes pour se concentrer sur la promotion des affaires et du tourisme. Il savait aussi que son État avait de gros ennuis. Étant un des hauts lieux des emprunts hypothécaires à risque et de la bulle immobilière, la Floride, dont l'économie et le budget étaient en chute libre, avait grand besoin d'aide de l'État fédéral. C'est donc autant en raison de son tempérament que par nécessité que Crist avait accepté de m'inviter à l'hôtel de ville et de soutenir publiquement le plan de relance. Les valeurs immobilières avaient eu beau chuter de 67% à Fort Myers, avec 12% de saisies immobilières, le public était ce jour-là tapageur et remonté à bloc. Des démocrates pour la plupart, baignant encore dans cette atmosphère pleine d'espoir de changement que Sarah Palin qualifierait plus tard ironiquement de « Hopey Changey ». Crist a expliqué de manière sensée, mais avec une certaine prudence, pourquoi il soutenait le Recovery Act, soulignant les bénéfices que la Floride avait à en tirer et la nécessité pour les élus de faire passer l'intérêt des gens avant les stratégies politiciennes. Après quoi, j'ai donné au gouverneur mon accolade classique, le bro hug, une poignée de main, bras dans le dos pour une tape amicale, regard approbateur droit dans les yeux et un merci glissé à l'oreille. Pauvre Charlie, comment aurais-je pu deviner que ce geste de 2 secondes serait pour lui le baiser de la mort ? Quelques jours à peine après cette rencontre, des images de l'embrassade, accompagnées d'appels réclamant la tête de Christ, ont commencé à apparaître dans les organes de presse de droite. En l'espace de quelques mois, Christ est passé du statut de star des Républicains à celui de paria. Il s'est fait traiter de béni oui-oui, de chantre de la conciliation, de républicain poltron n'ayant de républicain que le nom, qui méritait qu'on fasse de lui un exemple. Un certain temps s'est écoulé avant qu'il achève de boire le calice. À la course pour l'investiture au Sénat de 2010, Christ a été forcé de se présenter comme indépendant et s'est fait étriller par un arriviste conservateur, Marco Rubio. Christ finirait par réaliser un comeback politique en changeant de parti et en se faisant élire dans une circonscription de Floride sous l'étiquette démocrate. Il n'empêche, nombre de républicains du Congrès ont bien compris la leçon. Coopérez avec l'administration Obama à vos risques et périls. Et si vous devez lui serrer la main, montrez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur. Rétrospectivement, il est difficile pour moi de ne pas être obnubilé par la dynamique politique qui s'est déployée durant les premières semaines de ma présidence. La vitesse à laquelle les républicains se sont braqués, peu importe ce que nous disions ou faisions, et combien cette résistance a biaisé la façon dont les médias et finalement le grand public ont perçu la substance de nos actions. Après tout, à mains égards, cette dynamique a donné le ton de celle qui prévaudrait dans les mois et les années qui ont suivi, un clivage des sensibilités politiques de l'Amérique auquel nous sommes toujours confrontés une décennie plus tard. Mais en février 2009, c'est l'économie qui m'obsédait, pas la politique. Aussi est-il important de souligner un élément que j'ai omis à propos de l'histoire de Charlie Crist. Quelques minutes avant de monter sur scène pour lui donner la fameuse accolade, j'avais reçu un appel de Ram qui m'informait que le Recovery Act venait d'être adopté au Sénat et le serait donc à la Chambre des représentants grâce à la majorité démocrate. La façon dont cela s'est passé ne peut pas être considérée comme un modèle de la politique moderne que j'avais prônée durant ma campagne. Cela s'est fait à l'ancienne. À partir du moment où il est apparu clairement à la Chambre que ce ne serait pas un vote bipartite à large majorité, nous nous sommes concentrés sur l'objectif d'avoir la garantie de 61 votes au Sénat. 61, car aucun sénateur ne pouvait se permettre d'être perçu comme celui dont l'unique vote avait permis à la loi Obama de passer haut la main. Dans l'atmosphère radioactive que McConnell avait orchestrée, les seuls républicains qui daignaient envisager de nous soutenir se désignaient eux-mêmes comme des modérés, ayant été élus dans des États que j'avais remportés facilement. Susan Collins et Olympia Snowe dans le Maine et Arlen Specter en Pennsylvanie. Ces trois-là, ainsi que le sénateur Ben Nelson du Nebraska, porte-parole officieux d'une demi-douzaine de démocrates élus dans des États conservateurs, dont la priorité sur toute question polémique était de se positionner n'importe où pourvu que ce soit à la droite de Harry Reid et de Nancy Pelosi, et ainsi de se voir décerner la précieuse étiquette « centriste » de la part des commentateurs de Washington, sont devenus les cerbères à amadouer pour que le Recovery Act soit adopté. Et aucun de ces 4 sénateurs n'a hésité à nous faire payer le prix fort. Specter, qui avait vaincu 2 fois le cancer, a insisté pour qu'une enveloppe de 10 milliards du Recovery Act aille aux instituts nationaux de la santé. Collins a exigé qu'on retire du projet de loi les fonds destinés à la construction d'écoles et fait ajouter une disposition fiscale garantissant aux Américains de la classe moyenne supérieure qu'ils ne paieraient pas davantage d'impôts. Nelson voulait des moyens financiers accrus au titre du programme Medicaid pour les États ruraux. Leurs exigences grevaient le budget de plusieurs milliards. Cependant, le groupe insistait pour que le budget total n'excède pas les 800 milliards de dollars, car tout nombre supérieur semblait excessif. Pour autant qu'on sache, il n'y avait là nulle logique économique, uniquement un positionnement politique et un chantage classique de la part de politiciens qui se savaient en position de force. Mais cette vérité est largement passée inaperçue. Du point de vue de la presse, le simple fait que 4 sénateurs aient travaillé de manière bipartite dénotait une pondération et une sagesse de Salomon. Pendant ce temps, les démocrates progressistes, en particulier à la Chambre, m'en voulaient furieusement d'avoir permis qu'une bande des 4 décide du contenu final de la loi. Certains sont même allés jusqu'à suggérer que j'entreprenne une tournée sur le terrain contre Snow, Collins, Specter et Nelson, dans leurs États, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur demande de rançon. J'ai répondu qu'il n'en était pas question, ayant calculé, avec la connivence de Joe, Ram, Phil, Harry et Nancy, que la tactique du bras de fer avait toutes les chances de se retourner contre nous, et fermerait en outre la porte à une collaboration ultérieure du Quatuor pour d'autres lois que je voulais faire passer. De toute façon, le temps pressait, ou, pour reprendre la formule d'Axe, il y avait le feu à la maison, et la seule lance anti-incendie était entre les mains de ces quatre sénateurs. Après une semaine de négociations, après que moi, Ram et surtout Joe avons passé beaucoup de temps à amadouer, tanner et choyer les sénateurs, un accord a été trouvé. Les quatre ont dans l'ensemble obtenu ce qu'ils voulaient. En retour, nous avons eu leur vote, tout en conservant plus de 90% des mesures de relance que nous avions initialement proposées. À l'exception des votes de Collins, Snow et Specter, la loi dans sa version modifiée, épaisse de 1073 pages, a été adoptée par la Chambre et le Sénat sans qu'une seule brebis galeuse dévie des consignes de son parti. Moins d'un mois après mon entrée en fonction, je n'avais plus qu'à apposer ma signature pour qu'entre en vigueur l'American Recovery and Reinvestment Act. La cérémonie de promulgation a eu lieu devant une petite assemblée au Musée de la Nature et des Sciences de Denver. Nous avions demandé au PDG d'une société d'énergie solaire, avec un régime d'actionnariat pour les employés, de prononcer le discours d'introduction. En l'écoutant décrire ce que le Recovery Act signifierait pour son entreprise, les licenciements évités, les nouveaux emplois créés, l'économie verte qu'il espérait promouvoir, j'ai fait de mon mieux pour savourer le moment. À l'aune de tout critère conventionnel, j'étais sur le point de signer une loi historique, un effort de redressement d'une ampleur comparable au New Deal de Roosevelt. Le plan de relance ne boosterait pas seulement la demande globale, il aiderait des millions de personnes à survivre à la tempête économique, élargirait l'accès à l'assurance chômage pour les sans-emploi, à l'aide alimentaire pour ceux qui avaient faim et aux soins médicaux pour ceux dont la vie avait été bouleversée. Il accorderait les plus fortes réductions d'impôts concédées depuis Reagan pour les familles de la classe moyenne et des classes populaires. Et il apporterait la plus grosse injection de dépenses nouvelles dans les infrastructures et les réseaux de transport de la nation depuis l'administration Eisenhower. Ce n'est pas tout. Sans perdre de vue la relance à court terme et la création d'emplois, le Recovery Act serait aussi un premier pas décisif dans le sens de mes engagements de campagne de moderniser l'économie. Il promettait de transformer le secteur énergétique avec un investissement sans précédent dans le développement des énergies non polluantes et en faveur des économies d'énergie. Il financerait un des programmes de réforme de l'enseignement les plus vastes et les plus ambitieux pour toute une génération. Il encouragerait le passage aux dossiers médicaux électroniques qui avaient le potentiel de révolutionner le système de santé aux États-Unis. Et il faciliterait l'accès à Internet haut débit dans les salles de classe et les zones rurales qui n'avaient jusqu'alors pas accès aux autoroutes de l'information. Chacune de ces mesures aurait constitué à elle seule une avancée décisive pour n'importe quel gouvernement. Prises ensemble, elles auraient pu représenter l'accomplissement de toute une mandature. Et pourtant, après avoir fait le tour des panneaux solaires sur le toit du musée, être monté sur le podium et avoir remercié le vice-président et mon équipe d'avoir mené tout cela à bien dans un contexte de forte pression, après avoir témoigné ma reconnaissance à ceux qui, au Congrès, avaient aidé la loi à franchir la ligne d'arrivée, après avoir utilisé de multiples stylos pour apposer ma signature et ainsi promulguer le Recovery Act, serrer la main de tout le monde et accorder quelques interviews, après tout cela, quand je me suis enfin retrouvé seul dans la bête, le sentiment qui dominait chez moi n'était pas le triomphe, mais un profond soulagement. Ou plus exactement, un soulagement mêlé d'une forte dose de mauvais pressentiments. S'il est vrai que nous avions accompli l'équivalent de 2 ans de travail en un mois, nous avions aussi dépensé tout aussi rapidement l'équivalent de 2 ans de capital politique. Il était difficile de contester, par exemple, que McConnell et Boehner nous avaient amochés en termes de communication. Leurs attaques incessantes continuaient d'influencer la manière dont les médias parlaient du Recovery Act, la presse faisant des gorges chaudes de la moindre accusation fallacieuse de gabegie et de malversation. Certains pontes des médias ont repris à leur compte les racontars colportés par le GOP, selon lesquels je n'avais pas réussi à associer assez de républicains à l'élaboration de ma loi et que je n'avais donc pas tenu ma promesse de gouverner de façon bipartite. D'autres ont insinué que notre accord avec Collins, Nelson, Snow et Specter relevait du marchandage cynique, caractéristique de Washington, plutôt que du changement auquel nous pouvons croire. Le soutien public au Recovery Act avait augmenté au fil des semaines qui avaient été nécessaires pour promulguer la loi. Mais bientôt, le tapage ambiant aurait pour effet d'inverser cette tendance. Entre-temps, une bonne partie de ma base démocrate baignant encore dans l'euphorie de la soirée de l'élection et perturbé par le fait que les Républicains refusaient d'accepter sagement leur défaite, semblait moins satisfaite de tout ce que nous avions réussi à intégrer dans le Recovery Act qu'en colère à cause des quelques mesures auxquelles nous avions dû renoncer. Les commentateurs de gauche insistaient pour dire que si seulement nous avions été plus fermes avec la bande des quatre, la relance aurait été de plus grande ampleur. Cela en dépit du fait que notre programme était deux fois plus important que ce que ces commentateurs réclamaient à peine quelques semaines auparavant. Des associations de femmes étaient mécontentes de la suppression des dispositions en matière de contraception. Des groupes du secteur des transports se plaignaient que l'augmentation des fonds alloués aux transports en commun n'était qu'une partie de ce qu'ils réclamaient. Les écologistes semblaient passer davantage de temps à critiquer la part infime de financement accordé au projet de charbon propre qu'à célébrer les investissements massifs dans les énergies renouvelables. Entre les attaques des Républicains et les récriminations des démocrates, j'ai repensé au poème de Yeats, « La seconde venue ». Ceux qui me soutenaient ne croyaient plus à rien et mes opposants se gonflaient de l'ardeur des passions mauvaises. Rien de tout cela ne m'aurait inquiété outre mesure si la promulgation du Recovery Act avait été la seule mesure dont nous avions besoin pour relancer l'économie. J'étais confiant, persuadé que nous pourrions concrètement appliquer la loi et prouver à ceux qui nous critiquaient qu'ils avaient tort. Je savais que les électeurs démocrates me suivraient sur le long terme et que dans les sondages, ma popularité auprès du grand public restait globalement élevée. Le problème était que nous avions encore trois ou quatre grandes initiatives à entreprendre pour mettre un terme à la crise, toutes aussi urgentes les unes que les autres, toutes aussi controversées, toutes aussi difficiles à mettre en œuvre. C'était comme si, ayant gravi une haute montagne, je me trouvais à présent face à une série de pics plus escarpés encore, tout en me rendant compte que je m'étais foulé une cheville, que le mauvais temps menaçait et que j'avais utilisé la moitié de mes vivres. Je n'en ai parlé à personne au sein de mon équipe. Ils étaient déjà bien assez éreintés comme ça. « Prends sur toi, me suis-je dit. Serre bien tes lacets. Réduis tes rations. Continue à aller de l'avant. »